Le texte prévu dans le lectionnaire pour ce matin, j'ai choisi le texte de l'Ancien Testament dans le premier livre des rois. 1 roi, chapitre 19, versets 9 à 13. 1 roi, chapitre 19, versets 9 à 13. Au nom de Jésus, Dieu redonne du courage à Élie. Arrivé à Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. Sors, lui dit le Seigneur. Tu te tiendras sur la montagne devant moi et je vais passer. Aussitôt un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas toujours présent dans le feu. Et après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Et dès qu'Élie l'entend, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Amen. Une fois de plus, je ne suis pas si satisfait du découpage textuel du lectionnaire, car je trouve le lecteur qui attend un serment dominical lié à ce texte risquerait de perdre une grosse partie de la saveur de ce chapitre qui est très intéressant. Alors, pour vous faire profiter de cela, je vous demande d'être clément si je dois vous lire à nouveau le péricope à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et là, vous allez voir la différence sur la compréhension de ce texte. Je vais lire à partir du verset 1. Le roi Achab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas fait mourir comme tu as fait mourir ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Alors Élie prit peur et, accompagné de son serviteur, il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un guené, et souhaitait mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je n'ai pas mieux réussi que mes ancêtres. » Puis il se coucha et s'endormit sous le guené, mais un ange vint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange !» Et il vit en effet près de lui un de ces pains plats que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Après, l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Élie se leva pour manger et boire. Puis, avec la force trouvée dans ce repas, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'au Horeb, la montagne de Dieu. Voilà, à la suite de cette lecture, vous avez maintenant compris pourquoi il valait la peine de faire ce détour. À vrai dire, les 8 premiers versets nous donnent le contexte de ce qui est raconté à partir du verset 9. Mais je vais quand même résumer un peu la situation. Élie, après avoir fait le défi, le face-à-face avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et quand il a gagné le face-à-face, quand le feu de Dieu descenda sur l'autel et a détruit le sacrifice, alors il a donné l'ordre de capturer tous les prophètes de Baal et de les faire tous tuer. Alors vous comprenez maintenant le sens de la phrase d'Élie quand Dieu lui a posé la question « Que fais-tu ici, Élie ?» Et voici comment il lui a répondu « Mais j'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul et ils cherchent aussi à me prendre la vie. » Au verset 10. En écoutant cette réponse d'Élie, on sent que c'est un homme qui essaie tant que bien que mal de se défendre, de se justifier devant l'Éternel sur ce qu'il avait fait. Je vais vous poser la question, est-ce que Dieu ne savait pas ce qu'Élie avait fait s'il lui a dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Je crois que si, certainement. Mais pourquoi cette question « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors je me suis encore posé une deuxième question, est-ce que Dieu serait-il ingrat envers son serviteur qui s'est tellement dévoué corps et âme? Il a dit « Parce que je t'aime, c'est pour ça que j'ai fait cela, Dieu !» Il sentait que Dieu n'était pas d'accord avec lui. C'est pour cette raison qu'il a donné toute cette énergie pour justifier l'acte qu'il a fait, tuer les prophètes de Baal. C'est par amour pour toi que je l'ai fait. Et dans sa fuite dans le désert, il s'est épuisé, mort de fatigue, mort de faim. Il eut des mots durs vis-à-vis de Dieu. C'est comme s'il disait, c'est comme ça que tu me remercies, Seigneur. J'étais ton seul ambassadeur, j'étais celui qui défendait ta cause, et là tu me laisses mourir de faim dans le désert. Est-ce juste, Seigneur? C'est ce qu'il disait au verset 4, cela suffit, Seigneur, prends ma vie. Il était fâché contre Dieu. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et alors il attendait la mort en se couchant. Il dit, bon, je vais mourir, j'attends la mort, dans le désert, bien sûr. Et là, il y avait un ange qui l'a réveillé en mettant à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Et l'ange lui dit, réveille-toi, mange. Et il bouda, il ne voulait pas manger. Il était fâché, comme un enfant qui se fâche contre ses parents. Je ne veux pas. Et il se recoucha. Et l'ange qui le réveille à nouveau, « Réveille-toi, mange !» Et à la deuxième fois, c'est là qu'il a mangé. Vous voyez la scène, cette intimité que Élie avait avec son Dieu. Et Dieu le réveille encore une fois dans son sommeil avec la question que j'avais dit au tout début, à la fin, « Que fais-tu ici ?» Une très belle question. Cette forme de question, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Et donc, il faut la lire au deuxième degré. C'est-à-dire que l'Éternel pose une question comme s'il lui impose une introspection sur sa situation. Un peu du genre, rappelez-vous que celle Dieu avait posée à Adam. Où es-tu, Adam? Rappelez-vous quand Adam s'est dû cacher. Il s'est caché, un peu comme Élie, il se cache dans une grotte. Dieu ne cherchait pas juste de savoir où il était. Dieu ne cherchait pas où est son adresse. Il voulait lui rendre conscient de sa situation. Et il y a même d'autres traducteurs de la Bible qui ont donné une autre traduction de cette question de Dieu. Où es-tu? D'après les exégètes, où en es-tu, Adam? Dans une autre version. Où en es-tu? Et là, ça change dans notre compréhension. Où en es-tu? Après avoir pris la décision radicale de manger l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, Dieu l'a invité à s'auto-évaluer. Dieu ne l'a pas accusé. Dieu lui a mis devant le fait accompli. Dieu lui a mis devant un miroir. Où en es-tu maintenant? Dis-moi. Ce n'est pas moi qui va te dire ce que tu as fait. Où en es-tu? Et là, Adam lui-même s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Il dit, on s'est caché. Parce que nous sommes rendus compte que nous sommes nus. Dieu n'a pas dit qu'il est nu. D'ailleurs, il a dit, qui t'a dit que tu es nu? Donc voilà, ce n'est pas un Dieu qui accuse, mais qui nous amène face à notre responsabilité et nous-mêmes, nous sommes conscients des bêtises que nous avons faites. Et le même style de question revient ici dans notre texte. Que fais-tu ici, Élie? En d'autres termes, pourquoi es-tu obligé de te cacher comme ça? Voilà la question. Pourquoi? Et la réponse, nous le savons tous, parce qu'il avait tué tous les prophètes de Baal. Alors, était-il obligé de tuer tous ces prophètes par amour pour Dieu? Ne serait-ce pas un excès de zèle de la part d'un serviteur de Dieu? Cela me fait rappeler aussi l'histoire de Moïse, avec la demande incessante du peuple, rappelez-vous à Mériba. Moïse, prise de colère, s'écria, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Et en frappant deux fois sur le rocher, ce geste lui a coûté très cher, car Dieu lui a dit, tu ne pourrais pas entrer dans la terre promise. Élie a eu un excès de zèle. L'orgueil lui est monté trop vite, très vite à la tête, parce que Dieu a confirmé son autorité sur son serviteur. Imaginez quand même, mettez-vous à la place d'Élie, quand vous voyez le feu qui descend du ciel, tu te dis, je suis le serviteur de Dieu. Il se permettait de tuer parce qu'il se considérait comme étant le seul serviteur de Dieu qui ne s'est pas agenouillé devant Baal. Comme s'il avait reçu une autorisation de tuer parce qu'il est l'homme de Dieu. Oui, il est vrai qu'Élie fait partie des grands hommes de Dieu, mais il reste toujours un humain comme toi et moi, en entier. Et c'est pour cette raison qu'avec tout le charisme qu'il avait, c'est impressionnant de voir ce Élie qui avait des pouvoirs énormes. Mais savez-vous, ses besoins en vivres, en nourriture, Élie dépendait d'un corbeau et d'une femme veuve pour se nourrir. Je trouve ça vraiment incroyable. Imaginez quelqu'un qui sait faire de la magie, qui sait faire des choses extraordinaires, et pour se nourrir, il n'a pas le pouvoir de se nourrir lui-même. Il doit dépendre d'un corbeau et il doit dépendre d'une veuve. Ça, c'est une leçon d'humilité que Dieu donne à son serviteur. C'est pas toi qui fais tout cela, c'est moi, dit le Seigneur. Et c'est ça qui rabaisse, qui ramène Élie à la réalité, parce qu'il est en train de monter à un niveau dangereux. J'appelle cela un contre-pouvoir dans le sens pouvoir surnaturel. Tous ces pouvoirs que je t'ai donnés, dit l'Éternel, ne t'appartiennent pas. Ces pouvoirs que Dieu lui a donnés ne sont pas faits pour ses besoins personnels, mais pour prendre soin des autres. Oui, pour les autres, je t'ai donné tout ce charisme, mais pour toi, tu dois ramer. Tu dois supplier une veuve pour te donner à manger. Tu dois dépendre d'un corbeau. Voilà la vie de ce grand Élie. Il faut que nous ayons à saisir ce mystère de Dieu, chers amis. Si on se réfère à l'apôtre Paul aussi, par exemple, ce grand Paul, il avait accompli de grandes choses. Si je ne me trompe pas, si c'était le mouchoir ou l'ombre de Paul qui guérissait même les malades dans le cadre de son ministère. Mais quand il s'agit de lui, de sa propre vie, vous savez comment était la vie de ce grand homme? Il donne la liste noire de ce qu'il avait subi. J'ai été naufragé, emprisonné, frappé à mort, un jour et une nuit dans les flots de mer, privé de sommeil, j'avais faim, soif, obligé de jeûner, souffrir du froid, etc., etc. Et la liste n'en finit pas. Et là, le contraste est interpellant. Paul qui a ressuscité un enfant qui était mort, Paul qui a guéri les malades, Paul qui a établi des églises partout, ce Paul, sa vie n'est pas une vie qu'on espère pour un grand homme de Dieu. Comment comprendre ce décalage? Alors on peut se dire, à quoi serviraient finalement les pouvoirs miraculeux que Paul avait? Et je me rappelle d'un étudiant au séminaire, quand on était au séminaire théologique, au tout début de notre formation, un jeune étudiant, le premier jour qu'il arriva dans le dortoir des étudiants, les célibataires avaient un dortoir, et quand il avait mis ses bouquins, tous ses livres, il avait mis une petite affiche au-dessus de son mur, il disait « Je suis le troisième ». Et le directeur du séminaire lui a dit « Mais on n'a même pas encore commencé l'année, tu te dis déjà tu seras le troisième de la promotion ». Quel prétentieux! Et le jeune homme lui répondit avec un calme. Vous n'avez pas compris, monsieur le directeur. Dieu est le premier, mon prochain est le deuxième, et le troisième, c'est moi. C'est-à-dire, je serai le dernier. Voilà la compréhension que le texte nous donne aujourd'hui. Si Dieu a tout ce pouvoir, par exemple, même le Christ, vous imaginez Jésus qui dit « J'ai le pouvoir dans les cieux et sur la terre ». Or, ce même Jésus qui n'a même pas une petite cabane pour lui. Il n'avait rien. Mais tout ce pouvoir sert à quoi? À servir, à sauver. Voilà, mais pas à s'auto-utiliser. Et la façon dont l'Éternel a fait comprendre à Élie où il voulait en venir se trouve au verset 11 à 13 ici dans notre texte. Ces trois versets parlent de ce qu'on appelle la théophanie, la manifestation de Dieu. Comment Dieu se manifesta à Élie? D'abord, il y avait le vent violent, ce vent qui a arraché les montagnes et brisé le rocher. Ensuite, le tremblement de terre, le feu, toutes ces manifestations. On peut retrouver tout cela, par exemple aussi au moment où l'Éternel descendait sur la montagne en réponse de la demande des enfants d'Israël qui voulaient parler à Dieu, rappelez-vous. Et il y avait ces tremblements de terre, il y avait toutes ces manifestations théophaniques. Et moi, au départ, je me suis rendu compte que cette semaine, en préparant cette méditation, j'ai toujours eu l'habitude de penser que ce n'était pas l'Éternel qui apparaissait dans le feu, ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais uniquement dans le calme et une voix tenue, comme il était dit ici dans le texte. Mais tout compte fait, j'avais mal lu, j'avais mal compris ce texte, car il est bien mentionné au verset 11. Avant que toutes ces manifestations se montrent, il est dit « Le Seigneur passa ». Et juste après, il y eut le vent et tout le reste. Donc, en lisant bien ce texte, le vent, le feu, la tempête, les tremblements de terre, ce ne sont que les préludes de la manifestation de l'Éternel. Et ce n'est qu'à la fin que toute cette liste de préludes théophaniques que vient le calme où Élie avait reconnu que cette fois-ci l'Éternel était bel et bien présent. Alors ce serait une grosse erreur de penser que Dieu ne se manifeste pas dans le feu ou dans le vent, mais c'est le mélange de toutes ces manifestations divines que Dieu se révèle à nous. Et c'est le message-là que l'Éternel voulait faire passer à Élie. C'est bien que tu as eu cette passion, cette flamme, et Dieu l'a montré avec le feu qui descendait du ciel. Oui, je me manifeste dans le feu. Oui, je me manifeste dans le tremblement de terre. Mais n'oublie pas, Élie, que je suis aussi le Dieu de grâce. Et c'est ça qu'Élie ne pouvait pas accepter. C'est ça la grâce qui agace Élie. Élie voulait voir juste un Dieu colérique. Élie voulait juste voir un Dieu justicier. Élie ne supporte pas l'image d'un Dieu miséricordieux. Et surtout miséricordieux envers les prophètes de Baal. Pas question. Mais il est aussi et surtout ce Dieu d'amour, ce Dieu doux, ce Dieu calme, ce Dieu riche de compassion. À nous aussi, chers amis, de ne pas perdre de vue ces deux facettes de Dieu qui sont inséparables. Si on dit que Dieu est un Dieu jaloux, passionné, c'est parce qu'il brûle d'amour pour nous. Et si nous disons aussi que Dieu est riche en bonté, que sa grâce est immense, ce qui est vraiment le cas, il faut toujours se rappeler qu'une grâce, pour qu'une grâce soit vraiment une grâce, c'est parce que c'est quelque chose de rare, comme une grâce présidentielle, une grâce royale, quelque chose de valeureux, quelque chose d'inabordable. La grâce, elle est hors de prix. Et je tiens à souligner là-dessus, une grâce n'est pas une braderie. Vous connaissez bien ce que c'est qu'une braderie. Vous voulez débarrasser de certaines choses qui n'ont plus de valeur et donc vous vendez cela à la braderie. Ou vous voulez faire un déstockage et vous bradez le prix parce que le prix a dévalué. Mais la grâce, elle est hors prix. C'est pour cela qu'elle est gratuite. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. Le salut que Dieu t'a donné n'est pas bradé, car il a coûté à la vie du Fils de Dieu. Et ne pas considérer le prix du sang versé à la croix est en quelque sorte une façon de dire que la grâce divine, elle est dévaluée. Mais ce qui choque la plupart du temps de ceux qui se disent hommes et femmes de la foi, c'est cette grâce qui est largement supérieure au-dessus de notre colère. J'aime bien ce texte qui dit dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 18, « Je suis le Seigneur lent à la colère et d'une immense bonté. Je supporte les péchés et les désobéissances. » Cette lenteur de sa colère qui nous dérange, nous qui souhaitons une mise en exécution, une mise à mort, le plus rapide possible de ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais Dieu, lui, il est lent à la colère pour que tout le monde puisse voir sa gloire. Rappelle-toi que la grâce de Dieu, elle est immense. On ne peut pas la mesurer. Et c'est pour cela que nous sommes toujours là aujourd'hui. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres si nous sommes encore en vie. Avec ce Covid-19, avant de venir ici au culte, je viens de recevoir un texto. J'ai encore perdu 4 amis pasteurs, rien que cette semaine. 4 amis. Je me suis posé la question, mais qui suis-je par rapport à eux? Je ne suis pas meilleur qu'eux, mais c'est cette grâce qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas calculer. Mais cela nous rend humbles devant Dieu, tout petits devant Dieu, que seulement par la grâce. Que nous sommes encore là.